Bonjour.
Coucou.
Bonjour.
On coupe la lecture pour reprendre notre émission. En fait, on a notre émission.
Là, oui, on prend le relais. Normalement.
On est gaming et politique.
Bonjour à toutes et tous autour de cette table. Il y a Quentin. Salut Quentin.
Hello. Vous allez bien?
Ça va et toi?
Impeccable.
Il y a aussi Myriam.
Salut.
Salut.
Qui nous rejoint dans l'équipe pour nous faire une chronique en plus aujourd'hui, il me semble.
Oui, exactement.
Yay, trop bien. Il y a aussi Alex. Bonjour.
Ouais, c'est moi. Bonjour.
Ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va.
Et il y a toi, Adrien?
Oui, il y a toi, Adri.
Bonjour, c'est moi, Adri.
Ça va, Adri?
Ça va et vous?
Ça va. Allez, c'est bon, on a fait plein de ça va. On arrête. Peut-être on peut faire lancer le générique du coup.
Mm-hmm. Oui.
Faisons ça.
Allez.
Oh shit. Here we go again.
Gaming.
Bandicoot Power.
Et politique.
Do a barrel roll.
Welcome
to the jungle.
Gaming et politique.
There are no good
gods, boy. Hey, cette fois, j'ai pas parlé avant la fin, c'est bon.
Ah, bien, ouais.
Et en plus, il me semble que la dernière voix qu'on entend.
Exactement, je pense que c'est un rapport avec ce dont je vais parler.
Ah ouais?
Incroyable, je crois, ouais. effectivement, pour cette première chronique, donc déjà merci de m'accueillir. Enfin, j'avais déjà envoyé quelque chose il y a quelques épisodes.
Oui.
Et ça me fait plaisir, bah, du coup, d'être là, Radio Galère avec vous.
Voilà, et ben, plaisir partagé.
De ouf.
Bah, grave, j'ai trop hâte d'entendre aussi les autres chroniques. Mais effectivement, on va parler de God of War, et notamment ceux de 2018 et 2022. Parce que j'ai pas eu le temps de rejouer au précédent, que j'avais un peu joué vite fait, mais je me suis replongée dedans avec les walkthroughs. Enfin, vous savez, les vidéos que font les gens. Alors moi, j'aime beaucoup regarder les walkthroughs parce que pendant longtemps, j'avais pas de quoi jouer.
C'est quoi les comment tu dis?
Walkthrough. Marcher au travers.
Ah.
Et en fait, c'est des gens qui s'enregistrent pendant qu'ils jouent, mais ils font pas forcément des commentaires. Et des fois, t'as genre des films qui durent 12 heures, comme ça, sur YouTube.
Ok.
Donc,
des gens qui jouent.
D'ailleurs, j'aimerais beaucoup des gens qui jouent, tout à fait. Clin d'œil. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui font l'enregistrement parce que je trouve que c'est assez chouette. Ça permet de passer le temps et puis d'avoir accès à des jeux, des narrations, des histoires, même si on joue pas, qu'on n'est pas aussi impliqué.
Sans avoir à payer potentiellement 70 euros en plus.
C'est ça, pour un jeu où on sait même pas si on va apprécier ou quoi. Ouais. Et ou alors pour les personnes comme moi qui n'avaient pas de bécane assez puissante pour pouvoir jouer
oui.
Ce qu'ils voulaient, quoi.
Ado, j'en ai maté plein.
Ouais.
Aussi. Ouais, carrément.
Et God of War, c'est un jeu assez ancien, faut le dire quand même. Enfin, assez ancien, je sais pas, de 2010, un truc comme ça.
Le premier, il est sorti en 2005, je crois.
En 2005, tout à fait. En fait, du coup, pour donner. Alors, attends, j'ai une petite timeline. En fait, ça, il va y avoir plusieurs épisodes entre 2005 et jusqu'en 2013. Au début, qui vont être. Alors, le premier jeu est fait par David Jaffe, qui ensuite va laisser sa place à Cory Barlog. Et Cory Barlog, j'essaie de pas dire Balrog, bref. J'arrêtais pas de l'écrire en tout cas au moment de préparer les notes. Et du coup, Barlog, en fait, c'est lui qui va reprendre justement, on va dire, entre guillemets, le reboot qui va avoir lieu en 2018. Alors le reboot, il va être annoncé en 2016 pendant une des conventions de jeux vidéo. Et voilà où en fait, on va découvrir que Aude finit la Grèce antique, puisqu'en fait c'est bon, on a tourné autour, on arrive cette fois-ci dans la mythologie nordique, donc dans les forêts et les neiges scandinaves.
Parce que God of War, ça se passe au départ, du coup on incarne, c'est toujours le même perso de toute façon.
Ouais. C'est Kratos.
C'est Kratos, voilà.
Tout tourne autour de Kratos, tout est à propos de Kratos.
De base, de God of War, c'est ça, t'incarnes un demi-dieu, voilà.
Le dieu de la guerre.
Le dieu de la guerre, qui s'appelle
fort.
Kratos, qui est trop fort, et tu vas, c'est un jeu de plateforme, quoi, du coup t'avances et...
C'est un beat'em all, si je
C'est ça. En fait, le but, c'est vraiment de taper tout le monde. Et en fait, au départ, Kratos n'est pas un dieu. En fait, c'est un Spartiate. Donc, du coup, qui, comme on le connaît, hein, avec 300, etc., les Spartiates, ils sont élevés à la dure. On les jette comme ça, là, dans des carrières avec des loups. Et puis, ils doivent se battre à 8 ans et se débrouiller tout seuls. Et ils deviennent très, très forts. Ce sont des gros guerriers. Et au début, lui, c'est le cas. C'est même un chef, en fait. Et il va se faire avoir, en gros, God of War, ça raconte... tout le long, une histoire de vengeance un petit peu éperdue, notamment une rage frénétique, puisqu'en fait, rage va devenir une utilisation d'une gameplay où, en fait, Kratos, donc, du coup, accumule des points de pouvoir et où, évidemment, il va tuer de manière de plus en plus graphique, violente, les ennemis qui se mettent sur sa route. Et en fait, Kratos, au moment où ça sort, donc en 2005, c'est un anti-héros. Clairement, c'est assumé, c'est-à-dire, il dit plein de grossièretés, il en a rien à foutre de personne. Les femmes sont traitées, mais franchement, alors déjà, on n'en a rien à faire d'elles, mais en plus de ça, il y a aussi, bah, par exemple, comme on en discutait la dernière fois, Alex, des scènes de sexe qui sont genre visibles à l'écran et où le joueur peut s'amuser à jouer, à appuyer sur les boutons.
A, B, A, B. Voilà, okay. C'est un peu l'ambiance et c'est très.
Et c'est violent, ouais.
Intense, enfin, violent, ouais.
Bah, genre le lit qui bouge, la femme crie, et en plus de ça, Kratos se permet, pour avoir regardé les walkthroughs, se permet de dire qu'en gros, il n'y a qu'une femme qui compte, et c'est sa femme à lui qui est morte. Évidemment, parce que comme tous ces anti-héros qui vont d'ailleurs apparaître à l'écran, hein, qui c'est dans des jeux vidéo, mais aussi dans la culture populaire, par exemple, on va avoir Dr. House, on va avoir Dexter, on va avoir un peu tous ces personnages, on va même avoir, par exemple, Breaking Bad, qui au départ est une critique finalement de ces personnages patriarcaux, on va dire abusifs, mais qui va être mal compris à l'époque avec Walter White, où en fait au contraire il va jouir d'une même aura comme Kratos. Et donc Kratos, bah, il est là en train de... En fait, en gros, il s'est fait avoir par le dieu de la guerre. Alors cette chronique va avoir plein de spoilers, je tiens à le dire, parce qu'en fait déjà pour aborder ce que je vais aborder, bah, déjà des points de narration, mais aussi les fins, puisque c'est ça qui est intéressant dans les nouveaux jeux.
Après ça a 20 ans.
Faut oui, mais pas ceux de, oui. pas ah, ceux pas, de 2018 pas et 2022.
Mais l'histoire de
pour
base.
Ça. Mais c'était pour... Voilà.
Spoiler.
Et donc du coup il se fait avoir par le dieu de la guerre, Arès, qui pris dans sa rage frénétique pour battre des ennemis, en fait va tuer sa propre femme et sa fille, puisqu'en fait Kratos est déjà un papa en réalité dans la première version. Et donc en 2016, ce qui se passe, c'est qu'en gros Santa Monica, donc qui s'occupe de faire le jeu, est sur une autre licence originale cette fois-ci, de SF, qui a rien à voir. Mais ils vont se retrouver quand même, je rentre pas dans les détails, mais en gros ils vont se retrouver quand même sur la licence God of War, où, comme je disais, on va rappeler Barlog,
pas
pardon.
Facile. On est d'accord que Santa Monica, c'est le studio de développement qui crée le jeu, c'est ça, quand tu
c'est
dis Santa
ça.
Monica.
C'est okay. ça, avec Sony Entertainment.
Avec
voilà,
Sony.
C'est PlayStation, c'est vraiment, PlayStation, ouais. qui est derrière le jeu. C'est leur blockbuster. C'est vraiment, c'est le Marvel Cinematic Universe de Disney. Enfin, voilà, c'est vraiment leur truc.
Et je crois bien qu'ils ont l'exclusivité God of War, d'ailleurs.
Oui.
Sony, au départ, ils
Il
ont
me semble que c'est le cas, ouais.
Ouais, ouais.
Et donc du coup ils vont aller et donc ils veulent refaire donc ils vont reprendre cette licence, sauf que cette fois-ci, bon, déjà le créateur il est devenu papa, ce dont je me suis douté tout de suite en commençant celui de 2018. Je me suis dit je me demande si le directeur n'est pas devenu papa. Et et il va dire en fait le problème de Kratos, c'est qu'il évolue pas. C'est un personnage voilà qui est
le
dans
méchant.
La vengeance, ouais. C'est un anti-héros, tout ça machin,
monolithique.
Et donc, il va dire « Kratos needs a fresh start ». Et c'est vraiment... Kratos, c'est un personnage unidimensionnel. Et comment on va travailler ça? Et c'est à ce moment-là qu'on va lui apporter, bah, par exemple, un fils. L'histoire commence dans celui de 2018, comme je disais. Déjà, on est dans des terres enneigées. On comprend très vite qu'on n'est plus dans la Grèce antique en commençant le jeu. Et en fait, c'est Kratos qui prépare un bûcher funéraire de sa nouvelle femme, parce que ça commence à devenir louchette histoire pour lui. Donc, ces femmes meurent, puisque évidemment, les personnages féminins sont là pour donner de la profondeur au personnage masculin, un petit peu classique. Et son fils, on comprend très vite qu'il a une relation qui n'existe pas, en fait, avec son fils. Ou en tout cas, très compliquée, puisque son fils a peur de lui. Néanmoins, veut quand même lui plaire, un petit peu comme tous les enfants qui ont eu des parents émotionnellement abusifs ou un peu constipés, qui veulent leur plaire et à la fois qui savent pas très bien sur quel pied danser. On comprend que Atreus est un enfant, donc il s'appelle Atreus, qui a été un enfant malade, qui ne pouvait pas sortir, qui était souvent en lit, etc. Et donc Kratos, savait pas trop quoi faire de ce fils. C'est la mère qui s'en est surtout occupée. Et maintenant qu'elle est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Et au début, Kratos ne change pas du tout de tempérament. On commence à jouer. Alors, ce qui est très beau déjà, c'est que c'est un plan séquence. Le jeu va se dérouler totalement en plan séquence, c'est-à-dire la caméra ne suit toujours, quand on joue, l'épaule, au-dessus de l'épaule de Kratos, puisqu'en fait, dans le premier jeu, on ne joue que Kratos. Et au moment des cinématiques, la caméra bouge, mais il n'y a pas de plan de coupe. Les seules coupes qu'on va avoir, ça va être les moments où Kratos est KO, enfin meurt, en tout cas, pour recommencer le moment où on a perdu. Mais sinon, la caméra va toujours être en train de suivre, et donc, du coup, on a vraiment cette impression, en fait, de voyage, et surtout, le jeu va être, puisque la dernière volonté de sa femme, Faye, est de mettre de faire voler ses cendres du plus haut sommet en fait de leur région, ça va être le chemin en fait de Kratos et Atreus pour pouvoir aller à cet endroit-là, évidemment avec pas mal de péripéties.
Et on sait comment Faye meurt ou sa femme du coup?
Non. C'est pour ça que je dis que c'est un élément narratif un peu facile, vraiment.
Ah, il n'y a aucune info?
Non.
Ah ouais, d'accord.
Même dans le 2, même dans Ragnarok, en fait, le personnage est beaucoup plus travaillé de Faye. On essaye un peu de nous raconter des choses sur elle, justement pour un petit peu la sortir de ce truc de la maman morte, qui est là pour lancer l'histoire. Y a vraiment pas beaucoup d'infos. On peut peut-être deviner, avec le lore, que quand même elle vient d'un peuple de géants. Peut-être qu'elle a l'air jeune dans les souvenirs de Kratos, mais qu'en fait, elle est plus vieille que ça. Bon, franchement, c'est pas dit. J'ai trouvé aucune info sur les pages, sur les fiches wiki. Parce que même, par exemple, que Kratos n'ait pas été là pour son fils, en fait, moi, je comprends pas très bien ce qu'il faisait là, Kratos, du coup. Enfin, il y a un truc dans les fiches wiki où, en fait, Kratos... Bah, en fait, par exemple, Atreus nous dit que c'est sa mère qui lui a appris à chasser. Ben, j'arrive même pas à savoir ce que faisait Kratos dans cette famille. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Voilà, il y a vraiment une espèce de trou narratif comme ça au début, genre bon.
Bon, maintenant Kratos se retrouve avec un fils, il doit s'en occuper et c'est un peu genre OK. On accepte le truc quoi. Okay.
C'est ça, on doit accepter ce que c'est et évidemment en plus on y va vraiment avec, quand je dis que c'est un blockbuster. C'est-à-dire qu'il va avoir à la fois le côté bon bien fait etc, mais il va aussi avoir les mauvais côtés, c'est-à-dire le jeu c'est quand même un couloir.
Oui.
Voilà, on n'a pas de... C'est pas un jeu... Alors qu'il y a une qualité de jeu de monde ouvert dedans, c'est-à-dire les décors sont super bien faits, ça donne envie d'aller plus loin. On est dans un couloir, on va toujours tout droit. En termes de gameplay, par exemple, quand on veut passer d'une falaise à l'autre, impossible de se louper, on va pas tomber. Même quand on gravit, etc. Enfin, c'est-à-dire les touches sont assez simples.
Ça, c'est un peu énervant, du coup, non?
C'est un peu frustrant.
Bah oui.
C'est les petits moments où j'étais un peu, où ça peut devenir même répétitif, etc. Néanmoins, le point fort, bah, c'est l'histoire et surtout bah, les personnages où j'ai quand même réussi à vraiment m'attacher. Alors à plusieurs personnages, même secondaires, et surtout le point fort, c'est la relation Kratos-Atreus qui va être vraiment tout le cœur tant du premier jeu que du deuxième, même si dans le deuxième j'ai trouvé ils ont fait un peu les pieds froids. En fait ils ont essayé de voir comment ils pouvaient rééquilibrer ce côté, parce qu'en fait le premier jeu va avoir une ambiance très mélancolique que j'ai trouvé très belle. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, celui de 2018 j'encourage vraiment à y jouer avant Ragnarok, même si on peut jouer à Ragnarok sans celui de 2018, parce que dans Ragnarok en fait on nous rappelle tout ce qui s'est passé dans 2018. Dans celui de 2018, vraiment, on nous rappelle tous les points forts. Les personnages se mettent à en parler, donc on n'est pas... Genre, il nous manque pas une info, quoi.
Bon, en tout cas, j'avais commencé celui de 2018, et c'est vrai que ça m'avait un peu saoulé, parce que c'était vraiment le père avec son fils qui lui dit « Ne pleure pas, avance !» Parce que Kratos, il parle comme ça, hein, faut le dire, c'est
oui,
un gros...
Oui, il parle comme ça, ouais.
« Ne pleure pas, surtout, mon fils, il faut que tu sois un homme !» Enfin, vraiment, il dit tous les clichés, les pires clichés, quoi, et du coup, j'étais en mode « Oh !»
Oui, et c'est tout le principe, c'est pour ça que je dis, ils y vont avec des gros sabots, parce que vraiment de nous montrer que Kratos, comme ça, il est, enfin, par exemple, il y a vraiment une scène, par exemple, il lui apprend à, il lui demande de lui montrer comment il chasse, et il va pour lui mettre une main sur l'épaule, et finalement, il se retient au dernier moment, alors que le gamin vient de perdre sa mère, quand même. Enfin, tu vois, il y a un truc où t'es un peu genre, oh, oui, bon, ça va, j'ai compris, vous voulez en venir. Et en fait.
Des émotions, mais je suis un homme.
C'est ça, genre, non, je ne vais pas montrer de la tendresse à mon fils de 8 ans, enfin, tu vois.
Qui vient de perdre sa mère.
Okay, on est où, là, tu vois? Et en fait, ça va être comme ça. Par exemple, au début, il veut pas l'emmener faire la quête où la mère les a emmenés parce qu'il est trop faible. Genre, il dit, oh, tu sais pas te tenir. T'es un peu genre, encore une fois, ton gamin a 8 ans. Genre, peut-être que. Mais plein d'éléments vont venir nous montrer que finalement, ça va être ça, le sujet par rapport à Kratos et par rapport à l'histoire. Par exemple, la première fois que Atreus tue un humain. Bon, en fait, qui se transforme en monstre. Hein. Mais au début, il est humain, donc ça change un peu des autres monstres qu'on a rencontrés avant, qui étaient déjà des monstres. Atreus le tue, et là, Atreus a un moment de choc. Il a du mal à réaliser ce qu'il vient de faire. C'est dur pour lui. Et le jeu met vraiment l'emphase là-dessus, et Kratos ne comprend pas. Kratos lui dit « Hop, 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 hein, si tu bouges pas tout de suite tes fesses, on rentre à la maison. » Il arrête pas de lui dire ça tout le début du jeu. Du coup, c'est très bizarre, parce que t'es un peu genre « Bah oui, bah, comment ça, à la maison, vous voulez dire votre cabane ?» Enfin, c'est très bizarre de... Enfin, tu sais, comme si un enfant se tenait pas bien au moment d'aller au cinéma. « Attention, je fais demi-tour !» Et là, c'est vraiment... Il fait que lui le menacer de ça, et là, Atreus est vraiment pas bien, puisqu'il vient de tuer quelqu'un. Jusqu'à présent, Atreus nous aide. Dans le premier, Atreus n'est pas jouable, mais on peut lui dire d'aller dans des crevasses qui sont trop petites, où Kratos ne peut pas aller puisqu'il est costaud, ou alors de grimper à des étages et il nous envoie une corde. Juste après avoir tué ce personnage, Atreus met du temps à arriver à la corde, beaucoup plus que les autres moments où on l'avait vu faire pourtant le même geste. Et Kratos ne fait que l'appeler et essayer d'attirer son attention, et Atreus est vraiment choqué. Et finalement, tout le jeu, ça va être ça, c'est-à-dire Atreus qui a des émotions, qui les vit, Kratos qui essaye de l'endurcir, puisque lui, c'est comme ça qu'il a été élevé. Finalement, c'est aussi pour parler quand même de Kratos et de ses propres traumatismes. Parce que, par exemple, dans les jeux précédents, Zeus, en fait, on découvre plus tard que c'est le père de Kratos, et Kratos tue son propre père. Donc le truc un peu classique des mythologies, tuer son père, voilà, toujours, constamment. Et là, c'est l'histoire de Atreus qui est avec son père. Donc comment on est un père alors qu'on a tué son propre père, qu'on a été trahi par tout le monde, et que Atreus lui a été élevé par une mère aimante qui lui a appris la compassion, l'empathie, notamment avec les animaux, et surtout de tendre la main. Tout le premier jeu, ça va être ça. Atreus ne fait que tendre la main à tous les personnages qu'on va rencontrer, notamment deux frères nains, Brock et Sindri, et qui sont des personnages assez réussis. Dans le premier, ils se font la gueule, donc on fait que les rencontrer les uns après les autres, et ils font que bitcher l'un sur l'autre. Ils sont très différents, et c'est Atreus qui va aider à les faire se rabibocher à la fin du jeu.
Avec ses compétences émotionnelles, on va dire, et
alors, malheureusement,
affectives.
Ça, c'est... Voilà, c'est alors oui et non, parce que c'est encore une fois un truc un peu chiant qu'il y a dans le jeu. Quand je dis que le jeu, il tente des choses et après il est un peu tiède, il back off. Bah, par exemple, le moment où ça se débloque pour les frères, c'est parce que Atreus vient d'apprendre qu'il est un dieu, puisque, encore une fois, Kratos lui avait menti. Enfin, c'est vraiment tout un truc sur la parentalité un peu abusive, qui cache, qui dit pas les choses, l'absence de dialogue, de discussion, et le jeu met en avant le fait que c'est important de le faire.
Ouais, ouais. Mmh.
Puisque c'est que quand Atreus, en vrai, s'il était malade jusqu'à présent, c'est le plot twist, c'est parce que il savait pas qu'il était un dieu, et donc il avait une puissance en lui qui était en train de le consumer. Parce qu'il n'arrivait pas à la... Parce que personne ne lui avait appris à adresser ce qui était en train de se passer en lui.
C'était à cause de son père, quoi.
Oui.
Et le poids du mensonge, le poids des cachotteries de son père, en plus.
C'est ça. Et il y a un autre personnage aussi. Pardon, vas-y.
Non, vas-y. Et du passé, en soi, de son père qui pèse aussi sur lui. Enfin, il y a vraiment un truc de transmission de traumatisme.
C'est le traumatisme générationnel est hyper présent dans God of War, aussi par rapport à d'autres personnages, puisque comme je disais, donc on va avoir la mythologie nordique, on a Odin et on a sa femme Freya qui est la mère de Baldur qui est un des fils donc de Odin, et Baldur dans la mythologie, c'est la mort de Baldur qui lance le Ragnarok, donc la fin des mondes. Là, Baldur arrive, c'est ça d'ailleurs qui va perturber, on va dire, c'est-à-dire que certes la quête des deux loulous là, c'est d'aller balancer les cendres, néanmoins ils sont poursuivis par un dieu vengeur d'ailleurs, à qui va mettre en miroir Kratos par rapport à son passé d'être un dieu vengeur lui aussi, et la relation que Baldur a avec sa mère, puisque sa mère entend une prophétie il y a des années, elle lui lance un sort pour le rendre immortel, sauf que ce sort a un contre-coup qui est que Baldur ne ressent plus rien, tant la souffrance, mais aussi la joie, le plaisir, ce qui va le mener vers la folie, et il n'a qu'une idée en tête, c'est se venger de sa mère et de la tuer. Or, Freya nous aide tout le long de notre chemin, à nous, tout ça c'est des choses qu'on découvre au long du jeu, et qui va mettre cette fois-ci Kratos. Alors, il est mis en miroir avec Baldur par rapport à son passé, mais il est mis en miroir avec Freya sur qu'est-ce que c'est que de surprotéger un enfant, et comment ça peut être très mauvais pour l'enfant aussi, de l'empêcher en fait d'être qui il est, et de le laisser vivre, tant pour les mauvaises choses que pour les bonnes choses, quoi.
Le jeu m'était aussi un peu tombé des mains comme toi, Alex, et ça, de t'entendre, ça me donne envie quand même d'y donner une chance.
Je conseille parce qu'il est vraiment très beau, il y a vraiment des moments comme ça très apaisants, notamment les fins où Kratos accepte son passé, par exemple il enlève les lames du chaos. Alors, au début il n'a pas les lames du chaos, à un moment donné il va les chercher, enfin, c'est tout un
qui sont ses armes de prédilection depuis le début de la franchise en 2005, c'est ça, c'était ses armes,
c'est ça,
de
c'est
guerre,
des lames qui ont des chaînes qui l'accrochent sur ses avant-bras, et puis alors là c'est hyper, ça fait des trucs un peu acrobatiques, c'est très souple. Personnellement moi c'est les armes que je préfère, mais c'est parce que c'est plus fluide et qu'on peut y aller en mode bourrin. Là où il va avoir, dans le premier jeu, il a la hache de sa femme, puisque sa femme a une hache qui a été faite par les deux nains qui avaient donc fait Mjolnir, donc le marteau de Thor, un des autres fils de Odin. Ils ont, dans le jeu, là, ils inventent le fait qu'il a fait une hache pour cette guerrière, puisque Ragnarok, cette fois-ci, va un peu travailler quand même ce personnage, justement, de Faye. Cette fois-ci, pas Freya, attention, on ne va pas confondre les deux, ça ressemble. Faye, le personnage de la mère, va être un peu plus travaillé dans Ragnarok, puisque dans Ragnarok, alors, il y a l'histoire principale qui est pas mal, même si je trouve que les retournements, enfin, le fait que Kratos finit par accepter qu'en fait, c'est bien d'être un papa aimant et que peut-être qu'il faut arrêter avec ce truc d'être des gros bourrins, etc. et de faire du mal à ses enfants parce que c'est comme ça qu'on les endurcit, c'est important. Ça arrive un peu tard, moi, je trouve, dans Ragnarok, alors qu'en fait, il y avait déjà pas mal de choses qui nous disaient tant dans le 1 que bah, tout le long du jeu, pourquoi est-ce qu'il continue à être aussi borné? Et on découvre aussi, mais par contre, ce qui est très fort dans Ragnarok, c'est les quêtes secondaires. Il faut faire les quêtes secondaires absolument, c'est incroyable. Il y a plein de moments où on comprend mieux comment Kratos redevient plus proche aussi, et grâce à son fils lui apprend énormément. Enfin là, j'ai plein de
plus proche de ses émotions, c'est ça.
Plus proche de ses émotions, lui aussi a peut-être tourné la page en essayant de devenir quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va devenir à la fin du jeu de Ragnarok. Encore une fois, spoiler. En fait, la fin du jeu Ragnarok, c'est il y a eu un DLC qui s'appelle Valhalla. Et cette fois-ci, Kratos fait la paix avec son passé pour devenir le dieu de l'espoir.
Oh,
ouais,
stylé.
Ça, c'est la fin des deux God of War, du
ouais.
coup. Ah ouais.
Donc c'est même
très puissant, c'est vraiment très fort. Hein.
C'est le dieu de l'espoir, quoi.
Petite larmiche.
C'est ça. Ouais. Il y a vraiment un truc très beau, même qui est fait dans Ragnarok. Moi, ça a été les moments où je trouvais, pour le coup, les plus puissants. Il y a plein de moments hyper intéressants avec Atreus, les moments où ils discutent. Là, par exemple, tu vois, j'ai plein de moments où il essaye de parler, par exemple, à un moment donné. Attends, excusez-moi. Hop là.
J'en profite pour m'excuser si des auditeurs voulaient jouer à God of War et sont arrivés après le spoiler alert.
Ouais, voilà. Vraiment désolé. Mais par exemple, Atreus lui dit je te propose un marché quand on sera séparés, j'essaierai de plus entendre ta voix, on va dire de l'expérience avec pour pouvoir prendre mes décisions, mais j'aimerais te demander que tu fasses la même chose, c'est-à-dire d'entendre ma voix qui est plus dans l'empathie, enfin qui essaye d'être un peu plus optimiste finalement sur la, et ça met vraiment un endroit d'égalité le père et le fils dans leur manière de, que les deux ont à apprendre l'un de l'autre. Et notamment à la fin, il y a vraiment un moment très touchant où Atreus part faire ses propres aventures. D'ailleurs, le choix de cadrage, bon, d'un point de vue cinématographique, est hyper intéressant. C'est bon. Ouais. Et
attends, remonte un peu ton micro, je crois.
Ah, ouais. Attends, ouais.
Ouais, là, c'est bon.
Est-ce qu'on est bien ? Ok.
Pardon.
Donc, merci. Et le moment où Atreus sort du champ, enfin, c'est très beau, quand il va vivre ses propres aventures. Et là, on a vraiment presque un passage, il y a vraiment un soin qui est apporté au visage de Kratos, où en fait, il pleure. Enfin, c'est... Enfin, il y a quelque chose de très douloureux dans son visage et à la fois très beau, puisqu'il laisse finalement, enfin, il a fait la paix avec son, enfin, il est plus ou moins en train de faire la paix avec son passé, mais surtout, il laisse enfin son fils vivre sa vie, avoir sa propre histoire, puisque un autre truc qu'on apprend, c'est que Atreus, son autre nom, c'est Loki. Bon.
Oh!
Voilà.
Oh, wow.
Gros spoil.
Voilà.
Ok, intéressant. Mais trop du bien. Coup, jamais j'aurais pensé que God of War, enfin, Kratos, un jour, on pourrait avoir des émotions, quoi. C'est assez fou.
C'est tout le...
C'est improbable.
Du coup, ça parle de masculinité, de changement de masculinité.
Et des paradigmes, du coup, parce que c'est aussi très parlant par rapport à notre société. J'ai parlé, par exemple, de Walter White, qui avait été très mal compris avec les auteurs, comme ce qu'ils avaient voulu faire du personnage, et finalement, qu'il avait quand même eu cette aura... finalement, où en fait, les gens le trouvaient badass, quoi. Ouais. Alors que c'était... au contraire, on nous montrait comment un homme ordinaire devient une espèce de patriarche abusif et dominate, enfin, et violent, quoi, et fait du mal autour de lui. Et d'ailleurs, je trouve intéressant qu'en 2018, il y a une autre série qui sort qui s'appelle BoJack Horseman. Mmh. Et BoJack Horseman va faire la même chose. On va nous parler d'un personnage qui souffre, il n'est pas bien dans son petit cœur, il souffre, il est alcoolique, alors c'est pour ça. Et en gros, ses problèmes, c'est les problèmes de tout le monde, etc. Voilà, on est dans ce type de masculinité. Or, les auteurs, quand ils comprennent que les gens aiment réellement BoJack Horseman et le plaignent, le pauvre petit chou, ils disent « Non, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut raconter. » Et ils vont intégrer dans la narration le fait que non, BoJack est certes a souffert et on peut avoir de l'empathie pour lui, on peut avoir de la compassion, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas être responsable de ses actes. Mmh. Et toute l'histoire va être à propos de ça, que non, BoJack fait du mal autour de lui et c'est pas OK. Et les autres personnages vont s'en rendre compte et vont lui dire « Il faut que tu sois responsable. » Or, BoJack, dans ce truc de pas vouloir l'être... il fait vraiment des trucs horribles et vraiment ils vont très très loin dans qu'est-ce que fait BoJack comme horreur.
Kratos is the new BoJack.
Non, parce que ils arrivent en même temps. Oui. Et par contre, Kratos, lui, change. Il fait le choix de changer. Oui, justement, c'est tout le. En fait, à un moment donné, dans le Ragnarok, par exemple, il y a un autre miroir, c'est le personnage de Thor. Alors là, comme ça, ça a l'air vraiment super. Comme je le dis, vraiment, quand je dis, j'aimerais être nuancée un tout petit peu parce que c'est parce que j'ai voulu voir ces très belles choses. Il y a des très beaux dialogues. Néanmoins, je trouve qu'ils sont un peu. Ils sont un peu.
On peut pas jusqu'au à côté bout. Quand même.
C'est qu'ils vont pas jusqu'au bout. Moi, je trouve que des fois, c'est un peu. Ça vient dans les cinématiques et là, on se dit ah oui, c'est vrai que c'est à propos de ça. Mais il y a quand même des moments un peu bourrins comme ça, on se frappe. C'est pour ça que je dis c'est important de faire les quêtes secondaires parce que par exemple, il y a un passage très intéressant avec Freya où elle fait enfin la paix avec le fait d'avoir été dans une relation abusive avec Odin, avec le fait que Kratos. Lui a enlevé un choix qu'elle avait, enfin, lui a la dépossédé d'un choix, et lui s'excuse de l'avoir dépossédé de ce choix, de lui avoir enlevé son agentivité. Enfin, c'est vraiment des moments hyper forts comme ça. Mais voilà, un autre miroir possible. C'est pour ça que je trouve que c'est un jeu qui parle de masculinité, mais aussi de parentalité, puisque là on a Thor qui a un personnage alcoolique qui pareil fait du mal autour de lui parce qu'il a un papa abusif, parce que c'est Odin, c'est un connard. Vraiment, Odin par contre c'est the new Zeus, c'est genre le mec à abattre. Bon, voilà, lui il a vraiment aucun, c'est mort, c'est fini. Voilà, lui il est trop loin quoi. Et avec Thor lui dit on est des dieux de la destruction, et là Kratos le regarde, lui dit non. Parce que pour le bien-être de nos enfants, on doit faire mieux. Et enfin voilà, c'est plein de moments comme ça assez forts. Moi, je conseille quand même d'y jouer parce que c'était intéressant. Il y a encore une fois les deux nains, du coup Brock et Sindri, qui ont une histoire vraiment magnifique, qui aurait pu même être plus poussée. Ça, j'ai envie de dire, c'est juste les limites en fait d'un côté blockbuster de ce genre de jeu, qui veut pas s'aliéner, je pense aussi son public de base, c'est-à-dire qu'ils veulent un Kratos bourrin. Ah bah, moi j'ai joué en easy mode. Moi, j'avoue, j'ai mis en mode facile, je m'en foutais complètement des combats. Voilà, je le dis. Moi, j'étais là pour l'histoire. Et
puis, ils ont envie de wokiser God of War parce qu'on est en 2018, mais pas trop non plus, quoi. Enfin, faut quand même garder les virilistes.
Bah, en vrai, j'ai pas regardé les réactions, mais il y a eu des trucs dans le jeu. Je me suis dit, mais est-ce que les fans, ils ont pété des. Est-ce qu'ils ont crié au wokisme en voyant
Sûrement.
Certaines choses? Parce qu'il y a vraiment des choix, des fois, qui sont faits. J'ai fait, est-ce que là, ils l'ont pas mal pris pour. Parce qu'ils le prennent tout mal pour rien.
Je crois qu'il n'y a pas eu de vague de. Comme il y a pu en avoir, par exemple, pour Assassin's Creed Shadows, on en avait parlé la dernière fois. Mais, de toute façon, maintenant, je veux dire, il y a un personnage féminin qui apparaît à l'écran. Il y a des personnes qui vont faire des commentaires comme quoi le jeu est woke. Donc,
exactement.
C'est le principe de Twitter aussi. C'est, je m'en rappelle, il y avait eu quelques vagues pour le dernier, pour Ragnarok, où justement, il disait qu'il rendait Kratos moins dans des clichés masculins, quoi. Enfin, il le disait pas comme ça, mais je vais éviter les mots. Mais comme d'hab, ça dure pas longtemps. Si le jeu est bon, de toute façon, tout le monde se tait. Et c'est des paniques morales d'extrême droite qui durent deux semaines.
Ouais, bah Assassin's Creed Shadow, ils s'en sont quand même pris plein la poire, quoi.
Mais là, oui, au God of War, je pense pas qu'il y ait eu des raids vraiment énormes.
J'ai pas l'impression. En tout cas, j'ai pas un souvenir. Mais parce qu'en fait, il y a aussi des personnages noirs dans God of War. Et notamment dans Ragnarok. Et je me suis dit, ouh, mais est-ce qu'ils ont pété. Enfin bon, voilà, c'est genre. Ouais, quand on sait comment ils sont, quoi.
Oui.
Je me suis demandé.
Ouais.
Trop bien.
Bon, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Il y aurait beaucoup encore à dire, mais merci. Merci.
C'est mais de toute façon, tu vas revenir. Tu es chez toi dans
l'émission,
donc tu reviens comme tu veux.
J'espère que ça vous a plu aussi.
Carrément.
Moi, j'ai envie de réessayer du coup, mais en effet, dans ce truc de proximité de la caméra, tu parlais. Moi, dans les anciens God of War, on est un peu loin comme ça. Et du coup, il y avait une distance qui était mise dans le truc hyper spectaculaire de tuer plein de choses, d'être en mode. Et du coup, ça devenait presque kiffant parce qu'il y avait une distance quand même qui était mise. Et là, comme on est très proche de Kratos maintenant, il y a un truc où. Enfin, je sais pas, on est encore vraiment collé à sa violence, et il y a un truc un peu poétique, intimiste qui est mis dans cette violence qui m'a fait genre un peu sortir du bazar.
Mais je suis d'accord. Ouais.
Mais bon, bref, pardon.
Puis c'est quand même de mieux en mieux fait aussi, tu vois. Là, avant c'était genre des gros trucs, tu vois, il y avait plein de sang, mais tu te rendais pas trop compte. Là, c'est hyper et très très beau, quoi. Enfin, c'est très. Réaliste.
Et puis tu tues beaucoup d'animaux. Moi ça m'a perturbé. Je sais qu'au bout d'un moment. Bah, comme tu es dans le Ragnarok, pour le coup, par contre, des fois tu joues Atreus, qui lui a une empathie, enfin il a un lien spécial en fait avec les animaux. Ça fait un peu. un peu l'effet de certains jeux où en fait il y a des espèces de dissonances cognitives qui se produisent, où le jeu nous raconte quelque chose et finalement on se retrouve pendant des masses, pendant des moments de gameplay à faire quelque chose où tu dis mais c'est marrant, ça vient un peu contredire la cinématique que je viens de voir. Et par exemple bah, tu tues pas mal de bestioles quand même qui certaines sont très belles, enfin tu vois il y a un côté un peu majestueux et en fait tu les tues. Mais il y a aussi des moments où on vient nous raconter autre chose de peut-être qu'on n'est pas obligé de toutes les tuer. Voilà.
Est-ce que tu as choisi une chanson pour faire une transition avec la suite?
Oui, justement. Alors au début, j'avais pensé, la première idée que j'ai eue, c'était de mettre une chanson qui est dans Metal Gear Solid 3, qui parle d'un père qui parle à son fils, mais elle était un peu longue et du coup je suis partie sur une chanson de Cat Youssef Steven, Father and Son, vraiment une chanson de daron mais qui je trouve marche très bien avec le jeu. Merci.
It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do? He turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Et on est de retour.
Ouais.
Encore merci Myriam pour cette belle chronique sur God of War. Et moi j'enchaîne du coup.
Ouais, t'enchaînes.
Bah ouais. Et je vais vous parler de choses donc que t'as un peu mentionné autour des addictions notamment. Parce que moi c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, ces questions-là. Et je me suis demandé, est-ce qu'on peut être addict aux jeux vidéo? Parce que je sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de questions autour de vous, mais c'est quand même un apanage qu'on entend régulièrement. On tombe facilement quand même dans cette question de ça rend complètement accro les jeunes. Ce genre de choses, vous avez déjà entendu ça, j'imagine.
Ouais, bah c'est très marronnier à la télé. Il y a toujours une fois par an une chronique qui parle de l'addiction aux jeux vidéo.
Et oui, il a franchement bon dos le jeu vidéo pour être une cible, comme tu dis, c'est un peu des paniques morales, t'en parlais aussi tout à l'heure, Quentin, c'est un petit peu comme ça la pensée rapide et efficace pour dénoncer la première chose qui passe. Le nombre de paniques morales qu'il y a autour de jeux vidéo depuis les années 80, on les compte même plus. Mais il faut préciser quand même, et ça c'est Mehdi Derfoufi qui nous l'avait partagé il y a 2 ans quand je l'avais interviewé, que sa réputation a quand même tendance à s'adoucir et qu'il est quand même de plus en plus valorisé dans les milieux notamment artistiques et valorisé. Mais c'est encore la proie facile pour des accusations gratuites et infondées. Pour ça, pour vous le prouver, voilà, avec un audio, je vous passe un très court extrait d'un reportage Antenne 2 de 1984, puis d'une allocution de Macron suite à l'assassinat de Naël en juillet 2023.
La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie.
On a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués.
Intoxiqués, les jeux vidéo.
Ça me fait penser aussi à Yann Boix, tu sais, la dernière fois j'avais fait une chronique sur lui.
Oui, un grand écrivain.
Oui, un grand écrivain. Oh là là.
Qui a dit des grandes choses sur le jeu vidéo. Ouais. Et ben, comme Macron qui a décidé que pendant les émeutes suite à l'assassinat de Naël, voilà, le jeu vidéo avait sa part de responsabilité là-dedans.
Et il y a la notion du mot poison qui est vraiment qui est insidieux, qui vient corrompre, quoi.
Et ben on va en venir sur cette notion quasiment maladive du jeu vidéo, parce que une des grandes paniques morales, c'est voilà ce qu'on disait tout à l'heure, les jeux vidéo rendraient-ils accro ou addict ou dépendant les jeunes joueuses aux écrans, d'ailleurs aux joueuses tout court, même adultes. Et en fait, il y a une opinion parmi les professionnels du milieu médical, quand j'ai fait mes recherches, une opinion qui est plutôt majoritaire et qui apparemment aurait tendance plutôt à croître. C'est qu'il y a une maladie de la dépendance aux jeux vidéo, au même titre que toutes les autres. Donc ce serait vraiment une pathologie à part entière, selon ces professionnels du milieu médical. Donc ça s'appelle la cyberaddiction, et ça a été formellement reconnu, il y a 7 ans, en 2018, comme maladie par l'Organisation Mondiale de la Santé, au même titre que la cocaïnomanie, donc on est dans le même, comment dire, dans le même dossier, que la cocaïnomanie ou les jeux d'argent. Donc voilà, c'est dans la classification internationale des maladies, la CIM. Et
mais,
vas-y.
Pardon, mais est-ce que il y a la même chose pour les séries, par exemple ?
Ah non.
D'accord.
Mais on va en venir. Il y a aucun autre divertissement qui n'est considéré comme étant une maladie parce qu'on la pratique. Enfin, je veux dire.
Parce que c'est exactement la même chose. Enfin,
oui. Ok. On est bien d'accord.
Rappelle que pour l'OMS, jusqu'en 1991, l'homosexualité était dans cette liste.
C'est vrai.
Mmh. Et en France, un fléau social jusque dans les années 80.
Ouais, ouais.
Cette croyance dans le fait qu'il pourrait y avoir une maladie de la dépendance, vraiment une vraie pathologie, a même mené certains adolescents à être hospitalisés en psychiatrie, et notamment en Allemagne, où des services ambulatoires ont été créés pour pallier à cette prétendue pathologie. Donc là, on parle quand même d'hospitaliser quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. On parle d'hospitalisation en psychiatrie parce que une personne se divertit trop. Tu parles des séries, on est quand même en effet sur la même gamme de choses. Imaginons, prenons un autre, média culturel. Si un adolescent lit ou peint ou même juste joue au foot pendant 8 heures de manière obsessionnelle tous les jours, est-ce que franchement ça ne rendrait pas un petit peu inquiet de le voir se faire hospitaliser par son entourage? C'est une fausse question. On sait que oui, ça nous rendrait inquiet de voir se faire hospitaliser par son entourage. Le problème, c'est que personne n'a vraiment réussi à prouver scientifiquement que la cyberaddiction est une pathologie à part entière. C'est un flou médical un peu étrange. Et en plus, il y a plusieurs spécialistes qui ont, eux, par contre, réussi à prouver que ce n'était pas classifiable au même titre que les addictions aux substances récréatives. Donc, il y a notamment Keith Baker, qui est un spécialiste de l'addiction, qui lui aussi a créé en 2006 un centre de désintox pour gamers, donc comme le centre ambulatoire allemand dont je vous parlais, donc, mais beaucoup plus tôt, c'était il y a quand même 2006, au secours, 20 ans.
19
ans, merci. Et après 2 ans de travail auprès de centaines de jeunes addicts aux jeux vidéo, il affirme que la relation pathologique renvoie d'abord à des problèmes sociaux, expliquant qu'aucun des traitements classiques issus de travaux sur l'addiction ne fonctionne sur les joueuses. Vraiment, il a essayé plusieurs méthodes qui, donc, probablement selon des méthodes qu'on utilise différemment selon différentes drogues, ça ne marche pas pour des personnes qui seraient prétendument addictes aux jeux vidéo. Des témoignages apportent la même conclusion dans les recherches que j'ai pu faire. J'ai pu en trouver beaucoup, notamment d'une chercheuse française qui s'appelle Laurence Kern. Et c'est la même chercheuse qui a fait sa recherche sur les fameux services ambulatoires allemands dont je vous parlais plus tôt. Et en fait, en creusant, on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus dans le milieu scientifique. Et même, il y a des recherches qui prouvent plutôt le contraire, en fait, que la pratique du gaming ne peut pas rendre addict en soi. Et là, du coup, je vais me permettre de rezoomer un petit peu sur ma petite personne, parce que je suis une personne dépendante. Voilà, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans les réunions anonymes auxquelles j'assiste. Voilà, même on l'utilise tellement qu'on se présente en se disant dépendant. Voilà, salut Adri, dépendant. Bonjour, personne dépendante. Etc.
Bonjour Adri, dépendant.
Bonjour Alex, pas dépendant.
Si, bah, c'est justement, c'est quoi
Mais voilà, mais bon, c'est toute la question. En tout cas, moi au début, ça me choquait un petit peu de me présenter comme ça et qu'on se présente comme ça. Je me disais, ça nous réduit à notre condition de dépendance. Et dépendante, mais en fait j'ai vite compris que c'était juste pour signifier aux autres et à soi-même qu'on a capitulé face au fait qu'on a une maladie et qu'on a arrêté de croire qu'on était plus fort qu'elle, et juste on accepte le fait d'être malade et de tout mettre en œuvre dès à présent pour aller mieux. Donc accepter d'être malade, c'est le premier pas pour sortir de cette addiction, de cette maladie. Et franchement, je prends un peu de recul sur ma vie de personne dépendante, donc mes 15 ans de galère face aux substances. Et franchement, ça me fait un petit peu chier qu'on mette le jeu vidéo au même titre que la cocaïne dans une liste de maladies internationales. Parce que déjà, à titre personnel, je n'ai jamais manqué de mourir en jouant à PUBG.
C'est vrai.
Dans la vraie vie, en tout cas.
Oui, parce dans, que PUBG, dans le jeu, par contre. Hein.
Bah, beaucoup.
À part à cause du temps d'attente entre deux parties, quoi. Mais sinon...
C'était une disquette gratuite.
Oui, voilà. Pardon.
Je me suis jamais senti en danger, mais de mort ou même en danger tout court, en jouant devant n'importe quel jeu. Et pourtant, j'ai 250 heures, encore une fois, de jeux sur PUBG, et j'ai failli canner d'overdose avec seulement 6 heures de prise consécutive. Pour dézoomer un peu, plus que sur moi, mais sur le monde, le nombre de morts causées par le jeu vidéo recensé dans le monde entier depuis 84. 41 ans de pratique vidéoludique et de recherche autour, il y a eu 23 personnes mortes à cause du jeu vidéo.
C'est comment du coup ?
Alors, ça dépend des pathologies, c'était soit des embolies pulmonaires, soit des arrêts cardiaques, mais c'était c'est mort d'épuisement en fait.
Oui, c'est ça. Oui.
Okay. Donc c'est jamais la même conséquence, mais la cause était qu'ils étaient épuisés devant leur écran, ils se nourrissaient plus, ils avaient une hygiène de vie déplorable, ils ont joué pendant 48 heures sans rien manger, ils sont calés.
Sans dormir. Comme des gens où pourraient mourir en faisant du sport ou quelque chose comme ça, quoi. C'est un peu le même.
Ah oui, mais oui. Voilà. Et d'ailleurs, pour faire une comparaison de ces 23 personnes mortes en 41 ans, en 2016, c'est le double de morts qu'il y a eu avec la cocaïne seulement en France.
Okay.
On parle pas du monde entier. Mmh. Et on parle pas du trafic d'ailleurs, on parle juste de la consommation. En fait, la question, est-ce qu'on peut être addict aux jeux vidéo, je pense qu'elle est pas très bien, elle est pas très importante, je veux dire. Elle s'ouvre peut-être à pourquoi est-ce qu'on en vient à une pratique excessive et quel manque il y a dans nos vies qu'on vient pallier au point de s'isoler complètement dans cette pratique. Donc la vraie question, je pense, c'est quels problèmes sociaux ou systémiques on vient occulter en dénonçant d'abord le gaming. Je pense que j'en ai une petite liste, le harcèlement, la violence d'État, la précarité, le racisme, la maltraitance parentale, le manque de moyens pour l'éducation. Et la liste peut encore être longue, je pense. Et il y a une autre question que je pense est plus intéressante et plus profonde à mon avis, et je pense que c'est peut-être la grande question qui fait que cette émission existe, vous me direz si vous êtes d'accord, mais c'est pourquoi est-ce qu'on en veut autant aux jeux vidéo ? Pour y trouver un embryon de réponse, moi je vous invite à écouter nos 10 autres épisodes qui sont prêts à l'écouter sur Spectre Média. On peut aussi en parler ici, mais en tout cas, on est d'accord que c'est toujours une proie très facile de cibler un média, peut-être qu'une majorité, peut-être bourgeoise, peut-être intellectuelle, ne comprend pas, et donc va cibler beaucoup plus facilement. Et aussi parce que les jeunes gens ne savent pas ce qu'ils font, enfin, nous le savons bien. Voilà. Mais vous voyez, on est ici une équipe qui adore le jeu vidéo. Ça nous a façonné, on n'y voit que le bien, et je pense qu'on a eu les ressources, on a eu la chance de pouvoir en voir les bénéfices qu'on en a tirés. Mais bon, je pense qu'on n'est pas dupes non plus quant à l'envers de cette pratique. Enfin, je veux dire, c'est pas tout rose, c'est pas tout noir. On a parlé des gachas, on a parlé des jeux d'argent.
Il y a quand même certains jeux où qui veulent te faire tomber dans pas une forme vraiment d'addiction, parce que c'est pas une addiction comme on le. Mais en tout cas, ça dépend comment tu définis addiction, c'est ça le truc.
C'est qui utilise des. Quand on parle des gachas, qui utilise des procédés qu'on peut retrouver dans les casinos, où forcément ça active quelque chose de l'addiction. Mais c'est le jeu vidéo reste le moyen d'activer ça, mais n'est pas la cause de notre envie en nous de mettre dans des machines à sous, quoi.
Puis il y a tellement de jeux différents et de modes. Enfin, c'est
une partie du jeu vidéo qui utilise ces tactiques mercantiles, qui hameçonne comme ça. Mais c'est vraiment une microscopique partie. Après, il y a aussi quand même. On en a déjà parlé en parlant des free-to-play. Il y a aussi des jeux qui jouent sur cette fine ligne entre jeux gratuits mais jeux d'argent et récompenses spontanées. Parce que je vous ai pas lu. Je voulais vous lire la définition du Larousse pour l'addiction, mais je pense qu'en conclusion c'est pas mal.
Bah oui, vas-y, carrément.
Vous êtes d'accord?
Ouais.
Alors la définition du Larousse pour définir l'addiction. Excusez-moi, je remonte ma petite page. Elle dit. L'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Mmh. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Donc, en fait, ce plaisir immédiat, en effet, il existe dans le jeu vidéo. Mais après, il n'est pas responsable du malaise interne et aussi de l'abus que certains studios peuvent tirer pour en faire leur beurre et qui isolent en effet des jeunes gens. Et c'est grave, on est d'accord, ça peut amener dans des situations graves.
Tu l'as grave bien précisé juste avant avec la liste que tu nous as fait, mais c'est de ne pas confondre les effets et les causes. Mmh. Ce qui cause des morts, par exemple, aux jeux vidéo. Donc, même si c'est un petit nombre, c'est des causes intérieure qui amène à se traduire par un effet je joue trop aux jeux vidéo, mais c'est faut d'abord traiter les causes avant les effets.
Tout à fait. Ben je pense qu'on est tous d'accord et j'ai fini cette petite chronique, voilà.
C'est rigolo parce que ça me fait penser à notre question de débat qu'on avait pensé avec Myriam justement. Merci beaucoup pour ta chronique, c'était super intéressant. Je pense qu'on pourra reparler de ces histoires d'addiction parce que je pense que
ça pourrait grave revenir dans plusieurs à plusieurs endroits, parce que c'est quand même effectivement déjà ça revient. Moi ça me fait beaucoup penser ce rapport de panique morale par rapport aux jeux vidéo, vachement à ce qui se passe avec les mangas et les animés où c'est pareil en fait à chaque fois chaque année ou tous les deux ans ou tous les cinq ans des fois tu sais où ça redescend un peu et puis d'un coup il y a une re-hype parce qu'il y a un animé qui marche très bien et tout d'un coup repanique morale. Et où je vois ça, mais où en fait aussi, oui, c'est toujours pareil, c'est-à-dire plutôt de pointer le symptôme là où en fait il y a autre chose avant. Hein.
Mais c'est tout cette histoire avec les animés, avec Ségolène Royal dans les années 80-90.
Même Télérama avait fait une terrible.
Mais je ferai une chronique là sur, ou peut-être qu'on fera même, je sais pas, un épisode spécial là-dessus, on verra, parce que je trouve que le lien entre jeux vidéo et la violence. C'est trop intéressant historiquement comment ça s'est. Voilà, ça a un lien aussi sur ce truc de comment on traite les jeux vidéo. À croire que ça tue, quoi, que ça augmente la violence dans les sociétés, quoi. Mm-hmm. Bon, je pense qu'on en reparlera, ça peut être grave intéressant.
Oui,
mais
si ça vous fait penser au débat, peut-être qu'on peut
c'est ce que je me dis, ça me fait penser au débat qu'on avait eu, parce que du coup on s'est dit que chaque épisode, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas on aime bien l'idée de juste on pense à un débat, un sujet de débat autour du jeu vidéo et on se le pose entre nous, on discute là pour 5-10 minutes quoi. Et avec Myriam la dernière fois on discutait à une terrasse d'un café de jeux vidéo et je lui ai dit mais moi je trouve que le mot jeu vidéo, le nom jeu vidéo, ça me saoule. Pourquoi on dit jeu vidéo? Je trouve que ça enlève ça réduit un peu trop ce terme-là. Alors que pour moi, c'est plein d'autres choses qu'un jeu vidéo. Même si j'aime bien ce nom-là, il y a un truc qui je trouve assez réducteur parce que c'est
infantilisant un peu.
Un peu infantilisant, un peu. Je sais pas comment dire, c'est les deux mêlés, enfin je sais pas, genre pour moi tu vois le cinéma, enfin pour moi c'est équivalent à l'art du cinéma, tu vois, et je trouve que ça fait
comme
ça...
si on appelait la littérature mot dans un livre par exemple.
Oui, c'est ça, mot dans un livre. Oui, exactement, tu vois.
Oui, je vois.
Le truc que c'est rigolo de faire de lire. Non, je sais rien, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui,
il y a un truc où je sais
c'est
pas
un petit
ça
peu
me
au moment où on veut donner ses lettres de noblesse à la bande dessinée que tout d'un coup ça devient roman graphique.
Voilà, c'est tu ça vois, exactement, c'est un peu ça et ça participe je trouve à cette vision qu'on a du
des jeux vidéo hyper infantilisantes, hyper genre truc d'addiction parce que c'est qu'un jeu quoi. Alors que c'est un art hyper développé. Enfin, on en parlait aussi la dernière fois de se dire en fait c'est un univers artistique incroyable le jeu vidéo au niveau de la musique, des graphismes. Enfin, c'est tout est fou quoi. Et au niveau du gameplay aussi, il y a des formes artistiques qui se développent qui sont incroyables. Il y a des univers fous. Et en fait, on dit jeu vidéo. Enfin, moi je disais en tout cas à Myriam, je trouve ça trop réducteur ce nom-là. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous dites non au contraire? Myriam me disait moi j'aime bien.
Oui, parce que j'aime bien l'idée. Bah, vidéo, déjà, ça renvoie vachement au côté domestique que j'apprécie énormément dans le jeu vidéo, même s'il y a aussi les bornes d'arcade, etc., mais qui devient finalement domestique du fait de créer une communauté autour et que finalement on a des codes un peu communs et ça finit par créer une culture, mais qui est plutôt populaire, les bornes d'arcade par exemple. Parce que là, on parle. Parce que même en pensant addiction, ça me fait tout de suite penser au documentaire King of Kong. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est quand même un très beau documentaire sur les bornes d'arcade et notamment ce qu'on a une sorte d'addiction aux jeux vidéo, puisqu'en fait, on nous montre. À un moment donné, il y a un mec qui dit je ne bois pas, je ne fume pas, je joue aux jeux vidéo. Mmh. Et voilà. Mais c'est hyper touchant et c'est hyper sincère, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment une déclaration d'amour ce documentaire. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, voilà. Et qu'en fait, le côté vidéo, j'aimais bien ça. Le côté jeu aussi, c'est ludique. C'est-à-dire, c'est quelque chose où, en fait, qui nous permet de réfléchir. Et à la fois, qui allie les deux. Et vidéo, finalement, c'est les cassettes vidéo, par exemple, qui va, convoquer plusieurs médiums, comme, par exemple, ce que tu disais avec la musique, avec on va dire, un langage, vidéo, en tout cas un langage cinématographique d'image animée, soit en prise de vue réelle, soit en dessin animé, et qui finalement va venir, passe par une petite, quelque chose qui est réduit, mais plus par un ordre de société qui veut mettre justement, tu vois, la bande dessinée, c'est moins bien que le roman graphique, là où en fait, en vrai, non, la bande dessinée, c'est super, et c'est bien les BD, tu vois, de le dire comme ça, les BD, moi j'aime bien. Je pense que tu viens d'Angoulême, donc, enfin, je viens pas d'Angoulême, mais j'ai fait mes études à Angoulême, j'ai l'habitude de ça.
Tu penses qu'en gros, il faudrait revaloriser vidéo, ce terme-là, jeu vidéo, il faudrait plus le revaloriser, et que c'est juste que c'est mal, pas assez connoté.
C'est ça. Et est-ce qu'on peut le contenir aussi en tant que mot valise, un peu jeu vidéo, ou comme la, en soi, il y a la bande dessinée, et dans la bande dessinée, il y a les romans graphiques, il y a la franco-belge, ou dans la musique, enfin dans le rap, va y avoir différents styles qui vont composer le rap. Est-ce que on peut pas amener aussi le jeu vidéo dans le jeu vidéo, il y a certaines catégories qui sont propres à chacune après, mais qui existent en soi déjà, où il y a les, enfin, vraiment jeux de plateforme, ouais. Parce que c'est tous les regrouper dans un même sac, c'est aussi compliqué.
C'est vrai. Donc pour toi, c'est facile, le jeu vidéo, ça permet aussi de faire qu'on peut mettre tout dedans, quoi.
Ouais, c'est ça, vraiment, ouais. gros mot valise.
Oui, mais je suis d'accord du coup avec le fait de pas de garder le jeu vidéo et peut-être de sous-catégoriser et ou de valoriser ce qu'on a déjà. Enfin, déjà ça montrait qu'on lâche pas l'affaire. Enfin, je sais pas comment dire, que toutes les personnes qui ont pu se faire conspuer parce qu'ils jouent à des jeux vidéo, on n'a pas changé le nom, on l'a gardé comme il est, mais c'est toujours la même pratique qui maintenant est soudain devenue valorisée. Mais ce que je me suis dit pour les catégories, quand tu l'as dit, c'est que contrairement aux bandes dessinées où on va différencier par les esthétiques, dans le jeu vidéo on différencie par les moyens, par les manières de jouer, par le gameplay.
Ah, il y a aussi une question de format dans la bande dessinée où oui. La franco-belge, ça respecte vraiment des trucs méga précis.
Donc c'est le visuel ou c'est l'esthétique ça. Qu'on va catégoriser. Alors dans le jeu vidéo, c'est comment on le joue. Et je me dis peut-être que justement ça peut être intéressant. Est-ce qu'on peut catégoriser autrement le jeu vidéo que on le joue de telle manière parce qu'on tue plein de gens en vue à la troisième personne. Ok, donc c'est un TPS ou un beat'em all ou beat'em up, mais plutôt ah oui, alors là donc c'est un studio japonais qui l'a fait dans un style graphique très particulier, du coup c'est je sais pas.
J'avoue surtout que je trouve que les catégories qu'on a de base, donc pour les auditeuristes peut-être que vous ne savez pas forcément, mais il y a plein de catégories de jeux vidéo, comme tu disais, beat'em all, FPS, RPG, plein de mots comme ça qu'on comprend rien. C'est pour les catégoriser, c'est un peu depuis la naissance du jeu vidéo, on a dû catégoriser les jeux avec différentes manières de jouer. En gros, ça va être des jeux de gestion, des jeux de stratégie, des jeux de... je sais pas, bref. Et je trouve que c'est de moins en moins pertinent. Ouais. Ces catégories-là, plus le jeu vidéo se développe, moins c'est pertinent, parce que maintenant, on va dire, ah bah c'est un, alors je vais faire exprès des termes compliqués, mais c'est un roguelike, mais en fait c'est un FPS, mais en fait c'est un nanana. Mm-hmm. Du coup on comprend plus parce que c'est
ouais, trop de termes.
Trop de termes.
Ça devient des termes hyper plastiques maintenant, comme ça peut être, tu vois, par exemple, c'est un point and click. Oui, mais c'est un point and click narratif. Enfin, tu vois, genre, parce qu'en fait, ça va plus être un, comment on appelle ça, un novel game. Tu sais, vous savez, surtout de la lecture, etc.
Oui.
Et en même temps, est-ce que c'est le cas, bah, par exemple, tu vois, Disco Elysium, du coup, un jeu qui va beaucoup se jouer donc à la souris, etc., et qui a énormément de lectures. Est-ce que c'est un novel game? Enfin, tu vois, c'est
oui, ça croise. En fait, tout à la croisée des types de jeux, j'ai l'impression.
De plus en plus, et du coup, c'est aussi pourquoi ces catégories-là, elles sont pas tant pertinentes.
C'est
peut-être.
Vrai, ou plus, ouais.
Et peut-être que si on commence à catégoriser par l'esthétique, on pourra plus donner une crédibilité artistique aux jeux vidéo, si ça se trouve.
Mais je suis totalement d'accord, et je pense qu'en effet, ça. Ça serait le cas, mais alors du coup, c'est toujours la même question, qui est-ce qui les nomme, qui est-ce qui a la légitimité de pouvoir les nommer, comment est-ce que ça reste, je sais même pas qui est-ce qui a dit, alors ça, c'est un beat them all.
Bah ça,
vous
c'est,
êtes en train de regarder un shoot them up actuellement.
C'est la culture jeux vidéo, et je pense, en fait on dit ça, mais je pense pas que ça c'est pas prêt de changer tout de suite, parce que dans le monde culturel du jeu vidéo, c'est très...
Puis c'est une question d'usage et de besoin aussi. Au début, on le disait pas FPS, enfin First Person Shooter, on disait Doom-like. Du coup,
oui, c'est vrai.
Comme Doom.
C'est vrai. Genre, oui, c'était un jeu qui avait lancé le truc, et du coup, qui était la base, quoi. Ouais, ouais. Et après, c'est devenu...
Exactement. On disait pas monde ouvert, on disait GTA-like.
C'est vrai, t'as raison.
Mais attends, mon cerveau va faire boum. Parce qu'il y a les jeux, c'est l'inverse. Par exemple, les roguelike.
Ouais.
C'était des dungeon crawlers avant.
J'ai pas la ref.
Les dungeon crawlers.
Moi non plus, j'ai pas la ref.
Je suis une vieille personne.
T'es une vieille personne.
Bon, bah, les dungeon crawlers, c'était le fait que tu rentrais dans des pièces et il y avait des loot à prendre dans des pièces et ça changeait à chaque fois, mais comme un roguelike.
C'est ça. De manière procédurale.
Donc il y a des jeux qui avaient déjà des catégories qui deviennent des.
Ouais, il y a l'inverse.
Ok.
Bon, c'est l'usage, quoi, finalement, qui fait les catégories. En tout cas. Je sais pas, moi, vous m'avez convaincu sur ce truc de pourquoi on nomme jeux vidéo et que c'est bien.
Ça c'est fait.
Le voilà. Débat est fini. Non, mais c'est pour dire que quand même, enfin, ça, en tout cas, ça permet de, je sais pas comment dire, mais je me dis, de toute façon, on sent qu'il y a un besoin de revalorisation et de crédibilisation du jeu vidéo dans la sphère artistique et populaire, quoi. Et enfin, ça montre ça. Moi, en fait, en soi, je suis attachée au nom. C'est plus que je sens que ce qui m'agace, c'est qu'on le dévalorise et qu'on ne le considère pas comme un art, en fait. C'est pas forcément le nom en lui-même, quoi.
C'est ça. Et du coup, est-ce que utiliser d'autres termes qui viendraient, par exemple, du cinéma, ou au lieu de dire j'ai joué à Ragnarok, qui est un jeu. Enfin, un TPS,
en plan séquence,
etc.
La classe, tu vois, genre, c'est un plan séquence de 10h, de 20h, tu vois, genre, incroyable.
C'est un jeu dramatique, tu vois.
Ouais, c'est vrai, ça peut être une solution de puiser dans les autres domaines d'art, ouais.
C'est ça, et en même temps,
ça serait énervant.
Ouais, ça m'énerverait aussi, ouais.
Ça m'énerverait vachement trop. Ouais. Je dirais, oui, calme-toi, c'est un FPS classique.
Voilà, c'est ça, c'est bon. C'est ce que je me dis, tu sais, c'est un peu toujours, c'est comme avec le manga, ou, enfin, tu vois, ces objets de la culture populaire, où en fait, qui sont chouettes, et où en soi, des fois, c'est, it's not that deep, et après, c'est compliqué, parce que finalement, c'est toujours quand on se retrouve face à un groupe dominant, à une bourgeoisie intellectuelle, etc. Enfin, qui vient remettre en question en fait on va dire la validité de des fois j'ai juste eu envie de jouer je sais pas à Left 4 Dead et puis en fait j'y ai pas trouvé de nom et inconsciemment je vais faire une analyse politique du truc parce que je suis comme ça mais sinon en vrai des fois c'est juste qu'en fait j'étais fatiguée après avoir travaillé à McDo et puis
t'as envie de tuer des zombies tranquillement
je connais les maps par cœur, c'est cool,
c'est vrai,
bien sûr.
À qui est-ce qu'on veut donner ces lettres de noblesse à part peut-être la noblesse?
C'est vrai, oui, non, incroyable.
J'ai mis du temps à la placer, celle-là.
Bravo.
C'est eux qui perdent au change, hein. C'est eux qui jouent pas, en fait.
mais aussi
c'est vrai en fait ils laissent les
c'est eux, ils sont bêtes,
mais mais j'ai l'impression que même si c'est très très ambivalent le sujet vidéo, parce que même si c'est un média quand même qui reste très populaire et qui je sais pas comment dire, qui justement va pas trop chercher dans les endroits élitistes intellectuels et tout, il y a un vocabulaire quand même hyper précis, hyper calé, qui le rend un peu intouchable, je pense, pour des personnes qui sont pas forcément de milieu élitiste et qui vont voir d'où ils sont. Donc vous avez là 25 catégories de jeux jeux vidéo que vous connaissez par cœur, qui sont pas en français, vous savez exactement ce que ça veut dire quand vous le dites. Enfin, je veux dire.
Oui, mais je pense que c'est aussi de base. Pardon, je t'ai coupé. Mais c'est de base. Avant, c'était pas cool d'être geek. Maintenant, c'est cool. Mais que du coup, c'était. On invente aussi des codes. On se crée une sous-culture. Pour aussi se distinguer, se reconnaître entre nous. C'est comme les queers, tu vois. On se crée aussi une sous-culture avec des normes, des codes pour pouvoir en fait avoir un truc, un sentiment d'appartenance, un truc communautaire et dans lequel on se sent puissant, quoi.
Pouvoir se revendiquer aussi de quelque chose.
Ouais, bon, maintenant ça a changé parce que c'est cool d'être geek, mais ça on en reparlera peut-être aussi.
Oui, ça aussi ça pourrait être super intéressant.
Carrément. On n'a plus que 6 minutes pour faire leurs recommandations parce qu'on va couper à 17h pile. Du coup ça fait 1 minute à peu près chacune, donc on se alors les recommandations de, alors pas forcément des jeux vidéo, Myriam, hein, tu sais, ça peut être d'autres choses. Souvent on recommande des jeux vidéo, mais c'est pas du tout une obligation. Je veux bien commencer un truc qui a fait un gros buzz, un jeu qui a fait un gros buzz, c'est Clair Obscur, Expédition 33. Yeah. Je l'ai commencé, je l'ai pas du tout, voilà, je suis au tout début, mais rien que le tout début, incroyable. Enfin, c'est magnifique, c'est, la narration est incroyable. Alors que moi, je suis pas très jeu de narration, je m'en fous un peu. Là, je suis en mode, c'est sublime. En plus, c'est un tour par tour, mais qui marche avec du rythme. Du coup, c'est vraiment super. C'est un mode de gameplay que j'ai pas du tout l'habitude et qui est trop bien, du coup. Enfin, c'est vraiment jouissif. Du coup, je recommande Clair Obscur. Il a fait un gros buzz, mais n'empêche que c'est de base quand même un jeu indé qui est français.
Ouais.
C'est des anciens
de Ubisoft.
De Ubisoft, ouais. Qui sont cassés en mode, enfin, qui sont cassés slash virés de Ubisoft et qui ont monté ça.
Exactement. Et du coup, je trouve ça incroyable qu'un jeu indé comme ça. Français soit aussi magnifique graphiquement, dans la musique, tout c'est sublime et je trouve qu'il faut grave leur donner. Il fait un gros buzz, ils n'ont pas besoin de l'émission mais je tiens quand même à les citer parce que, et à recommander ce jeu parce que c'est trop bien.
C'est vrai qu'il est intéressant comme jeu, là moi je l'ai assez avancé là. La musique elle est vraiment chouette et c'est surtout comment ils ont réussi à, je me permets juste de comment ils ont réussi à mettre les talents ensemble, ils sont allés chercher sur Bandcamp, enfin tu vois, des trucs comme ça pour la musique. Qui sont allés chercher pour je sais plus quoi. Enfin, c'est un peu un jeu de geek dans le sens où en fait ils avaient leur petite référence d'internet et puis hop, ils
mais
ont
grave
dit,
accessible.
On va faire un jeu. Et
c'est pas un truc pour les geeks, c'est un truc vraiment pour tu peux jouer, tout le monde peut y jouer, c'est magnifique quoi.
Bah, il est facile d'accès, ouais. C'est ça. C'est un peu un, pour les personnes qui connaissent, c'est un peu genre Final Fantasy en termes de tour par tour, rythme,
c'est
etc.
Ça. Ouais.
Ils ont un peu le même système, même avec les Lumina et tout. Enfin, voilà.
Ouais. Voilà, c'était ma recommandation qui vite.
Vas-y, je prends le site. C'est moi, c'est pour un bouquin qui fait écho à la chronique que j'avais fait sur Spinoza pour mieux comprendre. C'est du coup, c'est les cours de Gilles Deleuze qui s'appelle du coup sur Spinoza. C'est des cours de novembre 80 à 81 aux éditions de Minuit. Et en fait, c'est grave bien expliqué. C'est du coup, je l'ai lu après avoir fait ma chronique. Enfin, le livre est sorti après que j'ai fait ma chronique et du coup, j'ai envie d'en refaire une en me basant là-dessus parce que vraiment, c'est comment il lit. Comment il explique tout, c'est vraiment méga pro et
trop stylé.
On comprend plein d'autres choses et c'est trop bien et c'est trop facile à lire. Bah vraiment c'est des cours quoi. Du coup
c'est trop bien.
Tu peux t'endormir un peu devant en lisant, tu vois, t'en fous. De toute façon le cours il est bien fait et ça reprend bon moment.
C'est vrai que
un télo va.
C'est vrai que là la recommandation elle lui met genre le niveau à un endroit un peu.
Alors
genre,
moi je recommande vous, Clair Obscur.
Moi je recommande un livre sur Spinoza.
Vous dévalorisez les jeux vidéo vous-même là.
C'est vrai.
Comment on fait pour légitimer? Moi je mets sur un plan d'égalité.
J'avoue.
Un télo. Ok, trop stylé. Ça s'appelle sur Spinoza.
Oui.
Trop bien.
Trop bien. Myriam, vas-y, parce que moi, je sais toujours pas ce que je vais recommander.
Bah, justement, moi aussi, là, je trouve un truc au dernier moment, mais je crois que je veux juste faire un parallèle avec God of War, parce que j'ai joué à un autre jeu qu'on m'a recommandé quand j'ai parlé de God of War avec un ami. Cet ami m'a dit, mais est-ce que t'as joué à Hellblade? Et du coup, je dis, ah non, je connais pas. J'avais même pas entendu parler du jeu. Et c'est assez intéressant, parce que c'est un jeu qui se passe dans un univers nordique, en plan séquence. Le personnage principal a une tête attachée à sa ceinture, parce qu'il
s'appelle Kratos.
Et non, c'est une femme qui est aussi dans une période de deuil, puisqu'elle va chercher, je crois qu'elle emmène la tête de son amant, enfin elle va chercher son amant dans le Valhalla en fait. Enfin, bref, c'est vraiment aussi une histoire de deuil et d'acceptation de soi, mais avec un thème un peu plus horrifique. Il y a un travail du son qui est assez fort. C'est aussi un couloir, hein, en plan séquence comme ça, là on l'a su partout. Mais pour le coup, elle, en fait, elle entend des voix et il y a un peu, ça a été fait avec, je crois qu'ils ont beaucoup travaillé avec des personnes psychotiques. Enfin, voilà, il y a un truc un peu de là sur la santé mentale assez poussé, où le personnage est assez pris du coup par ses murmures, etc. Il y a des moments de baston. Alors, j'ai pas encore fini le jeu, mais je sais pas si c'est vraiment une recommandation, mais je trouvais intéressant. En fait, j'ai trouvé intéressant parce que le jeu est sorti au même moment aussi que God of War 2018.
J'ai entendu dire qu'il était super.
Voilà, bah, il est vraiment pas mal. Pardon. Okay. Allez, je laisse la parole, mais en tout cas, il est pas mal.
Bah moi, je vais vous recommander alors une série que Marie avait recommandée il y a vraiment 8 épisodes, je crois que c'était le deuxième épisode, et elle avait recommandé une série qui s'appelle Viking Quest, qui est une série Apple, et en fait, c'est une série qui suit enfin, toute une équipe d'un studio de jeux vidéo très connu, qui serait une sorte de World of Warcraft, dont ils ont pas réutilisé le nom, mais ça ressemble un peu à MMO dans le genre. Et, le créateur est une sorte de gros mascu mégalo, et en même temps, il est avec une équipe qui essaie de gérer son ego, mais c'est hyper drôle comme c'est amené, et je voulais surtout vous recommander l'épisode numéro 3 de la saison 1. Parce que on peut le regarder sans avoir vu du tout la série. Vous avez la flemme de vous lancer dans une série, s'il vous plaît, regardez juste l'épisode 3 de la saison 1. Ça vient nous parler de, je sais pas comment dire, de comment la passion du jeu vidéo, elle est aussi entre nous, entre la communauté des gamereuses, un vrai lien et un vrai lien affectif porte de très belles choses humaines. Et donc vraiment regardez cet épisode s'il vous plaît. Il est bientôt 17h. Merci, c'était Gaming et
Politique. Merci, bonne nuit.
Bonne journée. À plus.